Bonjour à tous et à tous, je m'appelle Maram et nous sommes sur Radio Express. Le monde agricole, vous connaissez ? Avec la classe de Grégorine et l'école Henri Vallon, nous avons monté une série de deux dossiers et de deux interviews pour vous parler du monde agricole. Le premier dossier aura objectif de définir ce que c'est l'agriculture. Le deuxième dossier parlera d'agriculture biologique. Nous passerons ensuite à l'interview de Bruno, employé aux espaces verts de la ville de Saint-Pierre-des-Corps et jardinier passionné. Pour finir, nous serons au micro avec Omar, responsable de culture au biotope à la ville aux Dames. Sans plus attendre, je passe le micro à Manet pour parler de ce que c'est l'agriculture.
Merci Maram. L'agriculture est le fait d'utiliser la nature pour servir les êtres humains. Elle a pris plusieurs formes à travers le temps. Nous allons d'abord parler de la différence entre l'agriculture intensive et l'agriculture extensive avec Shumaïssa et Mia. Et nous finirons par expliquer quelques métiers du monde agricole avec Sidali et Fatih. Je vous laisse donc avec Mia et Shumaïssa pour répondre à la question de la différence entre l'agriculture intensive et l'agriculture extensive.
Merci Manel. Nous allons commencer par l'agriculture intensive et nous parlerons de l'agriculture extensive. Ensuite...
Ah bon, mais c'est quoi l'agriculture intensive, Shumaïssa? Peux-tu nous dire qu'est-ce qu'est l'agriculture intensive?
L'agriculture intensive, c'est de planter plus dont on a besoin pour manger, pour vendre et gagner de l'argent. Pour cela, on utilise beaucoup le tracteur. Il permet de gagner du temps par rapport à ce que peut faire un agriculteur avec des outils traditionnels. Quand il faut soigner les plantes ou mettre des engrais, on cherche à utiliser les produits les plus efficaces possibles. En France, l'État aide les agriculteurs pour qu'ils continuent à produire beaucoup.
Ah, mais alors, c'est génial, non ?
Seulement si on ne fait pas toujours attention aux conséquences, évidemment que c'est bien de produire beaucoup de nourriture. Pourtant, il n'y faut pas oublier que le tracteur pollue car il consomme beaucoup d'essence. Il y a aussi les engrais, quand on en met trop, il finit par polluer la mer et les rivières. On pourrait aussi parler du fait que ça fatigue le sol, c'est presque génial.
Et pour ce qui est l'agriculture extensive, dans l'agriculture extensive, on travaille pour se nourrir. Les fruits et légumes sont mis de côté pour être mangés. Il y a aussi les animaux, ils peuvent manger les restes, mais ça permet d'avoir de la viande, des œufs, de la laine ou d'autres choses pour les humains.
Et on utilise un tracteur.
Nous, on utilise des outils traditionnels, c'est moins efficace que le tracteur, mais ça fonctionne avec l'énergie des humains ou des animaux, plutôt que l'essence. On peut réparer soi-même.
Ah, c'est bon, j'ai compris la différence. Pour l'agriculture intensive, on cultive pour gagner de l'argent avec la récolte, alors que pour l'agriculture extensive, on cultive pour manger et utiliser la récolte soi-même.
Merci Mia et Shumaïssa pour ces explications. Nous allons maintenant chercher à connaître les différents métiers du monde agricole avec Sidali et Fatih.
Mais que se passe-t-il? Nous nous sommes interrompus par la BIP, la Brigade d'Intervention Poétique.
La girafe. La girafe s'excave. Zèbre qui gaffe. Soudain, pif paf. Elle reçoit deux baffes. C'est le zèbre vexé qui vient de se venger. Ouh, François et Rico.
Voici venir l'hiver et son manteau glacé. Voici venir l'hiver et son chapeau gelé. Voici venir l'hiver, qui est le temps d'une saison. Viens poser ses bagages pour faire un long voyage. L'hiver, 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 l'hiver.
Merci Mia et Shumaïssa pour ces explications. Nous allons maintenant chercher à connaître les différents métiers du monde agricole avec Sidali et Fatih.
Merci Manel, il existe de nombreux métiers. Il existe de nombreux métiers agricoles dans le monde. On va d'abord s'intéresser à ce qu'est un céréalier, puis un éleveur et un maraîcher. On gardera pour la fin d'autres métiers agricoles dont le but n'est pas de faire de la nourriture.
D'accord, Fatih. Peux-tu me dire ce que c'est un céréalier, s'il te plaît ?
Avec plaisir, Sidali. Un céréalier cultive des céréales avant de les vendre pour avoir de l'argent. C'est un métier important. Les céréales sont les principales sources de nourriture dans le monde. Les céréales cultivées sont adaptées au climat et à la région où elles poussent. Par exemple, en Asie, on produit plutôt du riz, alors qu'en Europe, on produit plutôt du blé.
Et une ferme de céréaliers, ça ressemble à quoi ?
La ferme de céréaliers possède beaucoup de champs pour cultiver les céréales, au minimum 100 hectares.
C'est quoi un hectare ?
Un hectare indique la taille d'un morceau de terre. Le terrain d'honneur de foot de stade de Saint-Pierre-des-Corps fait un peu plus de la moitié d'un hectare. Imagine comme c'est grand 100 hectares.
En effet, c'est énorme. Fatih, peux-tu me dire ce que c'est l'élevage, s'il te plaît ?
L'élevage, c'est nourrir et soigner des animaux pour avoir de la nourriture. L'éleveur doit aussi entretenir les bâtiments où ils vivent. Il arrive que les éleveurs fassent des céréales pour nourrir leurs animaux.
Est-ce que toutes les fermes d'éleveurs sont pareilles ?
Non, en effet, ça dépend beaucoup des animaux qui sont élevés. Les poules et les vaches n'ont pas les mêmes besoins. Elles ont quand même un point commun. En général, les bâtiments. Ils servent au minimum l'hiver pour protéger les animaux du froid.
Tu as aussi parlé de maraîcher. Quel drôle de mot. Que font-ils ?
Le maraîcher fait pousser des fruits et des légumes. Oui, c'est un drôle de mot, ça ressemble au mot marais. Les anciens marais sont des terres de très bonne qualité pour le maraîchage. Avant de devenir une ville, Saint-Pierre-des-Corps était aussi un marais. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de maraîchers ici avant. Ils utilisaient le tracteur pour certains travaux, mais font souvent les récoltes à la main.
Du coup, ils ne peuvent peut-être pas travailler dans de très grands champs.
Ça dépend des fermes, mais oui, en général, la ferme du maraîcher fait 2 ou 3 hectares de plus. Il a besoin d'avoir des employés pour travailler, surtout pendant l'été.
Tout ce qu'on a vu pour le moment cultive notre nourriture. Qui sont les autres ?
On ne va pas s'amuser à tout le dire, mais certains sont très intéressants. Il y a par exemple des éleveurs qui font de la laine. Ils peuvent vendre la viande de leurs bêtes, mais ce n'est pas leur travail principal. Ils ont des moutons de race à laine. Ce sont des moutons moins gras, mais plus laineux.
Ah, ça me fait penser aux champs de coton. Ils ne poussent pas en France, mais plutôt dans des pays chauds et humides. C'est une fleur de 1 mètre de haut. On l'utilise pour faire des vêtements, comme le jean par exemple.
Et tu vas pas me faire de la compétition avec ton coton.
Désolé, je t'ai coupé.
Pas de souci, j'avais bientôt fini. Il me restait à parler des agrocarburants. Ça sert à remplacer une partie de l'essence, des voitures. Certaines machines arrivent même à fonctionner juste avec de l'agrocarburant. On utilise des betteraves ou du maïs pour le produire.
En voilà des métiers et tout différents.
Heureusement, ce serait triste de ne manger que du blé ou seulement des salades. Il faut de tout pour faire un monde. Manel, je te laisse reprendre le micro.
Merci Fatih et Sidali pour ces explications. Pour résumer, la façon dont les gens font de l'agriculture est très diversifiée. Certains cultivent pour manger et d'autres pour gagner de l'argent. Certains s'occupent de végétaux, d'autres d'animaux. Certains produisent des aliments, d'autres de la laine ou du carburant. Par contre, ils ont souvent un point commun. Sans eux, notre société ne pourrait pas exister.
Merci Manel et merci au groupe pour ce mini-dossier. C'est le moment de notre pause musicale. Je vous retrouve dans un instant sur Radio Express, notre stress.
Nos stress. Radio Express. Nos stress. Radio Express. Nos stress. Radio Express. Nos stress.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes tu puisses y voir un petit brin d'herbe.
Et les mains vont faire la part des choses.
Il est grand temps de faire une pause,
troquer cette vie morose
contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones,
pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs,
rien ne te retient.
Va vite
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas
ici, tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur ma terre. Dis-toi qu'au bout,
et
il y a la mer,
et que ça, ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien, comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et compare-le à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil.
Sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tout les animaux que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre, une tige de roseau
servira à la croissance de tes marmots. Servira à la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!
Vous êtes toujours sur votre fréquence préférée, Radio Express, Not Stress.
Nos stress. Radio Express. Nos stress. Radio Express. Nos stress. Radio Express. Nos stress.
Nous avons vu ensemble ce que était l'agriculture dans la première partie. Nous allons maintenant nous intéresser à ce qu'il y a de particulier dans l'agriculture biologique. Je vous laisse donc entre les mains de Abdennour.
Bonjour. Pour comprendre ce qu'est l'agriculture biologique, nous allons d'abord essayer d'en donner une définition avec Ismaël. Ensuite, nous allons chercher ce que ça a de bien ou de moins bien avec Yasmine et Cyrine. Pour finir, nous regarderons quelques chiffres. Alors Ismaël, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour donner la définition du bio? Moi, pour l'instant, à part qu'on ne peut pas mettre de produits chimiques, j'ai pas compris.
Pour définir le bio, je te propose de regarder comment on fait pousser les végétaux. Ensuite, on regardera ce qu'il y a à dire de l'élevage. Et on finira par les produits transformés.
Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les végétaux alors?
Tout d'abord, nous avons les engrais. C'est ce qui permet de nourrir les plantes pour les faire pousser. Ils ne peuvent pas utiliser des engrais chimiques. Ils utilisent donc plutôt des fumiers, du compost et des autres engrais naturels. Ensuite, les plantes doivent être dans la terre et il est donc interdit de les faire pousser dans des pots ou sur des armoires hors du sol. Il est aussi obligatoire d'utiliser des engrais bio quand c'est possible.
Et les OGM, on peut les utiliser en bio ?
Non, c'est interdit, car les OGM ne sont pas naturels.
Et pour l'élevage, on fait comment en agriculture biologique ?
Pour faire de l'élevage bio, il faut respecter certaines règles. Les animaux doivent être élevés en bio de leur naissance jusqu'à leur vente. Les animaux doivent être élevés en bio, leur naissance jusqu'à leur vente. Utilisons des médicaments illimités. Il faut leur essayer de respecter le bien-être des animaux. On a l'obligation de leur laisser de la place dans les bâtiments. Il faut leur donc adapter pour qu'il y ait de la lumière et de l'air. De plus, les animaux doivent pouvoir aller dehors pendant l'élevage.
Et comment est-ce qu'on doit les nourrir ?
Oui, si tu les vends, mais à une condition, qu'ils soient précisés sur l'étiquette, ce qui est bio et ce qui n'est pas.
Et si tout est bio ?
Alors tu peux redire ce que tu as préparé, les aussi.
Pour résumer, le but de l'agriculture biologique est de faire de l'agriculture sans produits chimiques et en respectant la nature. Pour l'élevage et la transformation, lorsqu'on a besoin de quelque chose pour produire, on utilise des produits biologiques. Maintenant, on va pouvoir s'intéresser au bon et au mauvais côté du bio. Qu'est-ce que vous en pensez, Yasmine et Cyrine ?
Tu entends, Cyrine ? Ça, c'est un sujet pour nous. Pour commencer, nous allons vous parler de ce qu'on appelle le label agriculture biologique. Après, nous allons vous parler des avantages du bio et nous finirons par montrer que tout n'est pas parfait.
Bon, alors c'est quoi le label agriculture biologique ?
Pour faire simple, le label agriculture biologique est le droit de dire que ce qu'on vend est bio. L'agriculteur doit payer des gens qui vérifient s'ils respectent les règles de l'agriculture biologique. Les contrôles ont lieu une fois par an minimum. Si tout va bien, le logo AB peut être utilisé. Ceux qui n'ont pas respecté les règles reçoivent des sanctions.
Et c'est quoi les sanctions ?
Les sanctions peuvent aller de l'interdiction de vendre le produit jusqu'au retrait de la licence agriculture biologique.
Ça veut dire qu'on prend le risque de ne pas pouvoir vendre si on a fait des erreurs. Pourquoi est-ce que les agriculteurs font du bio alors ?
Ils le font pour protéger l'environnement et ainsi que la santé de ceux qui mangent les produits. De plus, comme ils sont obligés de respecter le fait de ne pas mettre de produits chimiques, ils trouvent de nouvelles solutions aux problèmes.
Et tu pourrais nous donner un exemple ?
Oui, bien sûr. Pour ne pas mettre de produits désherbants, certains agriculteurs utilisent des drones. Les drones volent au-dessus des champs pour repérer les herbes sauvages. Une fois repéré, le drone se pose et arrache les herbes avant de continuer sa ronde.
Super, mais je suppose que ça doit coûter un peu cher. D'ailleurs, tu peux nous parler des mauvais côtés du bio ?
Comme les drones, ce sont des machines qui remplacent les produits chimiques, les outils de tracteurs sont très utilisés. Le problème est que ça demande beaucoup d'essence, ce qui n'est pas très bon pour l'environnement. Il arrive aussi que les agriculteurs doivent faire les travaux à la main. Il faut donc employer plus de monde pour en faire autant. Le fait d'avoir le label AB coûte aussi assez cher et surtout, les agriculteurs récoltent à peu près deux fois moins.
C'est dommage pour l'essence, mais en quoi est-ce que ça peut me déranger ?
Le prix, si j'utilise plus d'essence et plus de gens pour récolter moins, je suis obligée de vendre plus cher. C'est pour ça que c'est plus cher et que tout le monde ne peut pas acheter. Et en plus, en réalité, certains produits sont autorisés. Même si ce ne sont pas des produits chimiques, ils peuvent être aussi dangereux pour la santé. De plus, les magasins prennent plus d'argent lorsqu'ils vendent des produits bio que les autres produits.
Oui, c'est dérangeant. Alors si j'ai bien compris, on ne peut pas vendre bio comme on veut. Il y a des gens qui vérifient qu'on ne fait pas n'importe quoi. Si quelqu'un ne respecte pas, il reçoit des sanctions. L'avantage du bio est qu'il est meilleur pour la santé et l'environnement. Le problème est que c'est plus dur à produire et donc plus cher.
Comme quoi, tout n'est jamais parfait. Pour finir notre mini dossier, Carlos va nous donner quelques chiffres à propos du bio.
D'accord, Abdinour. En France, sur 10 fermes, moins de jeans est bio. Mais il y en a de plus en plus chaque année. Le chiffre d'affaires du bio en France est de 9,7 milliards d'euros en 2018. Il est donc possible de vendre en France les productions. Pourtant, il n'y en a qu'une personne sur 6 qui en mange tous les jours.
Merci Carlos. Il va maintenant être temps de finir notre dossier sur l'agriculture biologique. Au début, nous avons vu ce que veut mettre en avant l'agriculture biologique. La protection de l'environnement, de la santé et l'autonomie des agriculteurs. Nous avons ensuite vu que tout n'était pas parfait. Les produits bio sont difficiles à produire et plus chers. Enfin, Carlos nous a montré avec quelques chiffres ce qu'est le bio en France. Sur ce, je vous souhaite une belle fin d'émission. Et je rends le micro à Maram.
Merci Abdenour et merci au groupe pour ce mini-dossier. Il est maintenant temps pour vous de faire une petite pause musicale. On se retrouve juste après Radio Express, notre stress.
Radio Express, notre stress. Radio Express, notre stress. Radio Express, notre stress. Radio Express, notre stress.
Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le poing levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger. Mais toujours le poing levé, lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis là si pas le roi. Malgré nos peines, nos différences, toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le poing, encore plus haut, comme plus loin. Je ne suis pas comme toutes ces filles, qui ont des visages, qui ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les cœurs. Fille d'un quartier populaire, j'ai appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie, être acceptée comme je suis, avec la force et le sourire, point levé vers l'avenir. Lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis là, c'est pas le roi. Viser la lune, ça ne fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé.
Vous êtes branchés sur le 97.4, Radio Saint-Pierre Express.
Après cette pause musicale, vous êtes toujours sur Radio Express. Not stress.
Nos stress, Radio Express, nos stress, Radio Express, nos stress, Radio Express, nos stress.
Nous accueillons maintenant Bruno pour une interview autour de son travail pour le service des espaces verts de Saint-Pierre-des-Corps. Mais pas que ça, dans l'ordre nous allons d'abord parler du travail aux espaces verts avec Mohamed Yassine. Nous nous intéressons au CERM municipal avec Nadine. Ryan posera une question sur le projet de la ville. Nous finirons par des questions à propos du jardin personnel de Bruno avec Faïd.
Bonjour Bruno.
Bonjour.
Bon, nous allons vous poser notre première série de questions. Travaillez-vous pour la ville depuis longtemps ?
Oui, je travaille à la ville depuis 40 ans.
Comment avez-vous fait pour travailler dans les serres ?
Eh bien, tout simplement, j'avais fait une demande au service pour être embauché. Et puis, bon, en rentrant du service militaire, j'ai eu une réponse favorable. Donc, j'ai embauché le lundi matin.
Est-ce que vous avez fait des formations ?
Oui, j'ai fait 3 ans chez un horticulteur à Saint-Pierre de formation. Et après, j'ai obtenu mon diplôme.
Qu'est-ce que vous plantez en hiver, en été, au printemps ? Et pourquoi ?
Alors en hiver, on plante des plantes, des pensées, des primevères, des myosotis, toutes les fleurs qui vont résister à l'hiver, quoi, à la neige, au gel. Et au printemps, donc c'est ces fleurs-là qui résistent, puisque c'est des bisannuelles, elles restent du mois de septembre jusqu'au mois d'avril, mai. Et après, au printemps, là, quand on arrive à l'été, on change de fleurs, style bégonia, lierre. Pétunia, voilà. Et pourquoi ? Bah pour embellir la ville justement, pour que le paysage soit agréable à regarder, voilà.
Est-ce que quelqu'un organise les espaces verts et décide de ce que l'on plante ?
Oui, alors il y a un responsable de fleurissement à la serre qui gère les plantes, et après on se réunit, une commission qu'on appelle, et chaque équipe, c'est divisé en plusieurs équipes dans le service, et chaque équipe décide un peu des plantes qu'ils vont mettre dans les massifs.
Est-ce qu'il y a des endroits où il y a plus de travail ?
Oui, parce que comme il y a beaucoup de massifs, il y a des petits massifs et des grands massifs. Alors moi, je dirais que l'endroit où il y a le plus de travail, c'est le boulevard Jean Jaurès à Saint-Pierre-des-Corps qui part du rond-point et qui monte jusqu'au quai de la Loire.
Comment est-ce que vous plantez les fleurs ? Que s'est-il passé avant ?
Alors, bon, je vais répondre par la fin. Que s'est-il passé avant ? Donc, au printemps, on reçoit les graines, donc qu'on sème dans les serres municipales. Voilà. Et après, bon, c'est repiqué, après c'est rempoté, et après, voilà, ça va dans les massifs dans la ville de Saint-Pierre-des-Corps.
Comment est-ce que vous plantez les fleurs ? Où est-ce que vous mettez les déchets végétaux ?
Ah oui, les déchets végétaux sont mis à la déchetterie de Saint-Pierre-des-Corps qui sont transformés en terreau. Donc la déchetterie nous redonne une petite partie des déchets qu'on leur donne sous forme de terreau qu'on met dans les massifs de la ville.
En fait, on voudrait savoir ce que vous faites dans votre travail et comment vous y êtes arrivé.
Alors moi, ce que je fais dans mon travail, je suis polyvalent. Je suis aussi bien à la serre municipale à aider les gens, les semis, les repiquages, les rempotages. Et après, moi, je suis beaucoup aussi dans les services de la ville où je décore les salles et les halls et beaucoup de choses, quoi. Et je livre les plantes aussi, ça m'arrive aussi de livrer.
Merci pour ces détails, ça doit être un chouette métier.
Oui, c'était très intéressant, mais passons à la suite des questions. Nous nous demandions où sont-elles les serres municipales ?
Alors les serres municipales sont à la Morinerie. Sur un ancien site maraîcher, voilà, qui maintenant justement un maraîcher s'y installe.
Combien de personnes y travaillent?
On est 5 à la serre.
Quelle entraide pour les plantes?
Les intérêts pour moi ou pour... Ah ouais, bah donc c'est de cultiver les fleurs dans une serre municipale. Les intérêts, c'est que bah, les conditions pour les plantes, la chaleur, l'humidité, la lumière, un bon conditionnement pour les plantes.
Quelles sont les différentes façons de faire pousser les plantes?
Alors les différentes façons, bah, je vous explique tout à l'heure un peu les semis. On sème dans des petites caissettes. Il y a le bouturage. Le bouturage, bon, on coupe une plante pour remettre en terre, pour faire des boutures, ça s'appelle. Et après, vous avez la division aussi. La division, on prend, mettons, une touffe de plante et avec un couteau ou une scie, on divise en 4-5 morceaux et on replante. Ça s'appelle une division. Et il y a le marquetage.
Qui s'en occupe l'été?
Qui s'en occupe l'été? Ben, comme on est 5 à la serre, donc on fait un roulement. Il y a toujours au moins deux personnes l'été à la serre. C'est là qu'on a le plus de travail, donc c'est un peu chaud quoi. Là, l'été, c'est quoi de dire. Ouais, donc faut gérer.
Combien de plantes faites-vous pousser dans l'année?
À peine 40 000.
Est-ce que les plantes des espaces verts viennent de toutes les serres municipales?
Oui, une grande partie, oui.
Pour faire simple, c'est quoi la serre municipale?
Les serres municipales, bah, c'est un lieu, comme je vous dis tout à l'heure, c'est pour faire les plantes, Oui, c'est l'endroit où c'est un peu une nurserie, quoi. C'est là qu'on les élève et pour après, un coup qu'elles sont à maturité, pour les mettre dans les massifs de la ville.
C'est donc ça le serre municipal.
Et sinon, qu'est-ce qu'il y a de spécial au parc Gambetta?
Alors le parc Gambetta, il y a une aire de jeu et il y a un jardin partagé qui est organisé par les planteurs d'idées. Donc c'est des gens qui viennent à la serre faire leur semis et après on s'occupe de leurs plantes et ils viennent les chercher quand les plantes sont arrivées à maturité.
Qui a planté les arbres et qui les entretient?
C'est notre service, le service espace vert.
Y a-t-il un thème pour les espaces verts?
Cette année, pas vraiment de thème, à part que, comme vous savez, que la sécheresse depuis 2-3 ans sévit. Donc on va essayer de mettre beaucoup de plantes qui résistent à la chaleur cette année.
Si oui, quel était le thème 2019 et quelle différence pour 2020?
Alors le thème 2009, c'était les jardins dans la ville, les jardins cachés, les jardins ouvriers, tout ça, voilà.
Est-ce que les espaces verts ont participé aux journées du patrimoine, jardin secret, jardin caché?
Oui, les espaces verts ont participé, donc on a ouvert la serre, on a fait une journée porte ouverte, et on avait organisé deux ateliers, un atelier rempotage et un atelier art floral, donc je m'occupais, voilà.
En bref, qu'est-ce que vous pouvez nous dire des projets de la ville?
Alors les projets de la ville, je suis pas trop au courant, mais bon, j'ai entendu qu'il va y avoir un aménagement, je pense, de la gare de Saint-Pierre, parce que comme vous avez vu, c'est très minéralisé, donc ça manque d'arbres et tout ça. Et après, nous, on fait partie, il y a un jury qui passe tous les ans vérifier la ville, voir comment elle est entretenue et tout, et ils nous ont interpellés sur le fleurissement de la mairie de Saint-Pierre-des-Corps, d'où ça manque un peu de fleurs, quoi. Donc on va essayer de travailler sur ce projet.
Il se passe plein de choses dans la ville alors.
Oui, je ne pensais pas qu'il y avait autant. Nous avons aussi appris que vous étiez jardinier. Où est votre jardin?
Alors mon jardin, bah écoutez, si vous n'êtes pas loin, je vous invite à venir le voir quand vous voulez. C'est rue Maurice Beaufils.
Est-il décoré?
Oui, et actuellement il est décoré Noël, et donc il est décoré 3 fois par an, donc suivant le thème, une fois j'ai fait le Tour de France avec des coureurs cyclistes, des maillots, des vélos, quand c'est le Coupe du Monde de foot, je mets des joueurs de foot avec des ballons et tout ça, à Pâques, il y a des œufs de Pâques, des lapins... Voilà.
Comment est-ce que vous faites pousser les fruits et légumes ?
Bah écoutez, je me suis fabriqué deux petites serres et je fais mes semis moi-même aussi. Soit je récupère les graines d'une année sur l'autre, soit j'achète des graines et je fais tous mes semis en serre et après bon, je les transplante dans mon jardin. Voilà.
Est-ce que vous recevez des amis dans votre jardin ?
Oui, bien sûr. C'est un jardin convivial. Je reçois beaucoup d'amis dans mon jardin.
Nous avons aussi vu que vous faisiez des compositions florales.
Oui, oui, oui. Depuis 5 ou 6 ans, je me suis lancé à fond dans les compositions florales. J'ai fait pas mal de stages pour apprendre. Et voilà, donc depuis, bah, j'en fais de plus en plus.
Est-ce que vous aimez faire pousser des fleurs ?
Ah bah oui, c'est, c'est mon dada, oui, c'est ma passion.
La question est de savoir ce qui est l'important au jardin pour vous et ce que vous y faites.
Alors ce qui est important pour être dans mon jardin, c'est que c'est la nature d'abord. On n'est pas enfermé, on est à l'air. Et en plus, ben, on fait ce qu'on veut, on ne regarde pas notre montre, pas de téléphone. Et ce que j'y fais, bah, c'est que je m'occupe de mes fleurs, entre tailler, attacher, tuteurer, pailler, arroser. Donc se reposer, oui, c'est on travaille, mais bon, c'est reposant, quoi. C'est une journée un peu de détente.
Bon, c'est bon. Ça doit être passionnant.
En effet, Fayyid, je voudrais remercier Bruno et le groupe pour cette interview très instructive. Nous allons donc pouvoir faire une petite pause musicale. On se retrouve pour la dernière partie de l'émission avec Radio Express, Not Stress.
Nos stress, Radio Express, nos stress, Radio Express, nos stress, Radio Express, nos stress.
Je voulais porter ma banlieue sur le grand écran. Ils m'ont dit t'es pas de la famille Renoir, laisse béton. Désir bruyant, du mal à dormir et en me réveillant. Toujours le même somme, je me suis dit toi t'es plutôt du genre à mourir en essayant.
Challenge, toute ma vie j'ai dû challenger.
Sur le palier, ils m'ont pris pour un fou allié. Mais il me restait encore des balles dans le baril. S'ils prennent l'ascenseur, alors je prendrai l'escalier. Toujours un RER d'avance.
Fais-nous la banlieue.
On fait la mode et on défait les tendances.
Cramé en banlieue.
Ça fait longtemps qu'on ne calcule même plus ce qu'ils pensent.
On est audacieux.
On n'a pas le temps, on a grandi dans l'urgence.
On a grandi dans l'urgence.
Je reste debout.
Bonjour sur votre fréquence préférée. Vous êtes toujours sur Radio Express, notre stress.
Nos stress. Radio Express. Nos stress. Radio Express. Nos stress. Radio Express. Nos stress.
Nous arrivons à la fin de notre émission. Pour conclure, nous avons le plaisir d'accueillir Omar Sissaïd, maraîcher au biotope à la Véloda. Nous commencerons avec Walid qui, lui, posera une série de questions sur la façon dont il s'occupe des cultures. Nous passerons ensuite à des questions à propos de son entreprise avec Azerine. Pour finir, Yasmin l'interrogera à propos de sa vie professionnelle. Les enfants en cœur.
Bonjour Omar.
Bonjour les enfants.
Pour commencer, je vais te poser quelques questions. Est-ce que tu utilises un tracteur pour travailler la terre? Comment fais-tu pour faire pousser les graines? Est-ce que tu enlèves les mauvaises herbes? Est-ce que tu utilises beaucoup d'eau? À quelle saison tu travailles le plus? Qu'est-ce que fais-tu? Comment sont conservés les fruits? Pour finir, est-ce que tu t'occupes des cultures?
Alors bon, bah écoute, je vais répondre à tes questions, avec plaisir. Donc bah écoute, le tracteur est utilisé tous les jours là où je travaille parce qu'il y a des tâches qu'on ne peut pas faire à la main. Donc on utilise énormément le tracteur pour porter par exemple le matériel d'arrosage, pour porter des caisses vides ou pleines. Voilà. Et ensuite, il y a plusieurs étapes avant de voir ta graine germer. Donc on prépare d'abord les mottes en mélangeant la terre avec de l'eau. On les met dans une machine qui nous prépare des petites mottes carrées. Et puis on met la graine dessus et on met un peu de sable histoire de bien plaquer la graine au sol. Enfin au sol, à la motte. Cela permet un bon contact entre la motte et l'humidité de... Enfin la graine et l'humidité de la motte. Et du coup, c'est ça qui favorise la germination de la graine. Ensuite, on la met dans la serre pour qu'elle pousse tranquillement. Et les mauvaises herbes, on les enlève bien évidemment parce que en fait, les mauvaises herbes, elles consomment les éléments qui sont dans la terre que la plante a besoin. Donc voilà, on les enlève quand il y en a trop. Et au niveau de l'eau, bah, il faut toujours de l'eau. Pas trop, pas assez.
L'entretien des légumes.
Voilà. Donc la saison la plus chargée en travail, c'est bien le printemps parce que c'est à ce moment-là qu'on prépare le sol pour pouvoir planter les légumes de saison de style de genre les tomates, les salades, les radis, les courgettes, les concombres, etc. etc. Après pour tu m'as posé une question sur la conservation des légumes. Donc en fait, après la récolte, ils sont mis en caisse, ensuite lavés à l'eau de la ville, c'est de l'eau propre, et finalement on les conserve dans notre grand frigo. Et une équipe, ils s'en charge après. Et voilà, je m'occupe donc généralement de mes cultures. Bon, après le semis, bah, les graines ont germé et sont prêtes à être plantées sur un plastique noir qui empêche les mauvaises herbes de pousser. Et du coup, on les plante, on arrose et on surveille s'il y a besoin d'arroser après ou pas, s'il y a des maladies qui apparaissent. Et après, on désherbe, voilà. Et en cas de froid, on met une couverture. En fait, c'est un voile qui empêche, qui favorise la poussée de la graine et surtout, bah, ça la protège de froid. Voilà.
Ça doit en faire du travail.
Énormément.
Oui, mais il n'y a pas que ça. Je me lance pour la deuxième série de questions. Vous êtes combien à travailler dans l'entreprise? Que font les autres? Vous avez beaucoup de matériel. Quelle surface de terre est utilisée?
Qu'est-ce qu'il y a comme papier à faire? Est-ce que ça prend beaucoup de temps? Est-ce que vous vendez vos fruits et légumes en panier au magasin ou au marché? Qu'est-ce qui est le mieux? En fait, comment est-ce que tu vois l'organisation du biotope?
Du coup, on est beaucoup dans l'entreprise. L'entreprise est faite à environ 6 hectares à peu près, du coup sur deux sites différents, un site à la Véluda mais un site à Usso. Et du coup, on est à 4 patrons, ensuite 6 travailleurs permanents, ils sont là toute l'année, et à peu près 6 qui sont là 5 mois, 6 mois, en fonction de notre besoin. Et du coup, on travaille avec beaucoup de matériel. C'est pour travailler le sol, c'est pour épandre l'engrais et le fumier, et d'autres machines qui nous permettent de récolter par exemple les carottes, les pommes de terre, parce que si on y va à la bêche, déjà on se fait mal au dos et ensuite on n'avance pas. Et donc on occupe, comme j'ai dit, il y a à peu près 6 hectares. Et pour la partie administrative, il y a beaucoup de papiers à faire. Mais ça, personnellement, c'est pas moi qui m'en charge, c'est les chefs. Il y a aussi un centre de gestion qui s'en occupe. Donc il y a par exemple les bons de livraison à faire. Bon, ça c'est les chefs qui les font. Les fiches de paye pour toucher notre salaire. Et puis il y a les contrats de travail et les déclarations pour la sécurité sociale. En général, c'est les gérants de l'entreprise qui s'en occupent. Et ça prend énormément de temps. Heureusement que c'est pas moi qui m'en occupe d'ailleurs. Parce que je préfère travailler à l'extérieur. Et au niveau de nous, légumes et fruits, on les vend en panier hebdomadaire, évidemment. Et puis on fait des marchés, on fait 3 marchés et on vend aussi à plusieurs magasins. Le mieux pour moi, j'estime que c'est les marchés, parce qu'on est en contact direct avec les clients. Voilà, par exemple, le marché des fontaines, je le fais souvent à partir de mois dernier. C'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur circuit de vente parce qu'il y a le contact direct avec les clients et c'est génial. Moi, j'aime bien papoter avec les clients.
En plus de faire pousser les fruits et légumes, il y a beaucoup de travail.
Ouais, beaucoup de travail.
Ça nous permet de bien comprendre ton travail, mais il nous reste une dernière série de questions. Quel est ton parcours professionnel? Est-ce que tu as une histoire agréable à raconter sur ton travail? Pourquoi as-tu choisi ce métier? Est-il difficile? Quels sont tes projets? Pour faire court, qui es-tu au travail, Omar?
Mon parcours professionnel, j'ai fait des études dans l'agriculture. Je suis arrivé du Maroc en 2010, j'ai fait un BTS, un bac plus 2 dans la région parisienne. J'ai eu mon diplôme et ensuite j'ai cherché un travail un peu partout en France. J'ai postulé vraiment partout, mais vraiment, no limit. Et j'ai réussi à décrocher un CDD à la Véludame. Et depuis, je suis dedans. Ça fait plus de 5 ans que je suis dedans. Et j'ai une petite histoire assez marrante à vous raconter, en fait, parce que j'ai grandi, je suis né dans une ferme au Maroc. Dans l'Atlas, une petite campagne qui s'appelle Izomgen, et en fait j'ai grandi dedans, et pendant mes vacances scolaires on partait à la campagne pour donner des coups de main, pour récolter par exemple les olives, les amandes. Et en fait j'avais l'impression qu'on se faisait exploiter par un oncle qu'on estimait méchant, mais en fait ça nous a permis tous de devenir ce qu'on est aujourd'hui, et c'est grâce à ça que aujourd'hui j'aime mon travail, parce qu'il y a aussi il y a des souvenirs qui reviennent, en fait, et j'aime bien être dehors, et voilà, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et c'est ça aussi qui m'a poussé à choisir ce métier agréable, qui est très physique, qui est très difficile. Mais on profite vraiment de temps, qu'il vente, qu'il neige, ou qu'il pleuve, ou qu'il y ait du soleil, qu'il fasse 30 degrés, on est toujours là dehors et on aime ce qu'on fait. Donc pour rebondir un peu sur mes projets, moi j'ai un projet de m'associer avec mes chefs actuels. Donc ça serait normalement à partir de 2020, si tout se passe bien, si j'arrive à être naturalisé d'ici là. Et donc ça sera d'acheter mes parts et devenir chef dans l'entreprise. Voilà.
Merci pour ces réponses. Maram, je te rends le micro.
Je remercie Omar et le groupe pour cette interview. C'était très intéressant. Pour finir, je voudrais remercier la mairie de Saint-Pierre-des-Corps, l'équipe radio Saint-Pierre Express, les intervenants ainsi que notre maîtresse Grégorine et Léo, Mathieu et Abdel. On ne dose pas de stress, je vous laisse sur Radio Express.